Vous avez remarqué comme on bloque sur les bibliothèques? Vous savez, quand on ouvre un journal et qu'il y a un portrait d'un homme politique ou d'un artiste devant sa bibliothèque, ce qui pourrait être un décor passe soudain au premier plan. Qu'est-ce qu'on y trouve vraiment? Quel roman? Quel livre d'histoire plus ou moins suspect? Quels indices sur ce qui lui plaît? Quels essais? Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. C'est un réflexe, hein. On a grandi, on plisse les yeux pour y voir de plus près et l'on soupçonne toujours que rien n'est au hasard. Ni les livres qui sont présentés, ni l'ordre dans lequel ils sont classés. Vous vous souvenez peut-être comme les zooms du premier confinement semblaient parfois relever du concours de la plus belle bibliothèque, de la plus noble, de la plus grosse, de celle qui dirait, sans le dire, notre autorité dans le métier, ou même tout simplement notre légitimité à discourir. Chez les Grecs anciens, férus de rhétorique, on parlait d'éthos, tout aussi important que la logique ou la sensibilité dans l'art de parler. L'éthos, c'est l'image que l'on donne de soi-même. En l'occurrence, grâce à la bibliothèque, une certaine crédibilité. C'est un peu comme le costume cravate, si vous voulez. Il suffit de quelques livres pour dire, sans le dire, qui l'on est. Selon si l'on y trouve, sur le devant, Mimi Cracra, Guillaume Musso, Edgar Morin, Malraux, Mauriac, ou autant on emporte le vent de Margaret Mitchell, on ne donne pas sur soi les mêmes éléments. C'est quand même très intéressant.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que dit la bibliothèque de mon invité d'aujourd'hui? Ancien haut fonctionnaire à la culture, notamment psychanalyste et écrivain, on lui doit de très beaux livres comme Marilyn Dernière Séance ou encore des essais sur Glenn Gould, Schumann ou Marcel Proust qui sont autant d'autoportraits. Dans des livres et des femmes, il nous convie à une exploration érudite, intime et détachée de sa bibliothèque et de sa vie d'homme, de lecteur, d'auteur. Bonjour Michel Schneider.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. En quoi la bibliothèque est-elle un miroir de son propriétaire ?
C'est un miroir au sens où l'on se regarde à travers ses livres, et c'est un miroir qui peut aussi vous réserver de mauvaises surprises, comme tous les miroirs. Miroir, mon beau miroir, on aimerait bien, quand on est comme moi âgé, regarder sa bibliothèque avec l'amitié qu'on lui peut, et l'amour qu'on lui a toujours porté, et puis on la voit comme on voit son visage au miroir, on dit je ne suis plus ce que j'étais, et ma bibliothèque, elle est toujours là, à me renvoyer, au fond, mes manques. Hein. Oui. On regarde sa bibliothèque, on se dit, mais là-dedans, j'ai lu quoi? Un tiers, 40%, 50% des livres qui sont là. Et on est écrasé par le temps qui nous reste, le peu de temps qui nous reste, par rapport à l'immensité de ce qu'il y aurait à lire.
Mais la bibliothèque dit aussi quelque chose de ce qu'on aimerait paraître. Se pourrait-il, Michel Schneider, qu'il y ait, dans la vôtre, des livres que vous n'aimez pas, mais que vous gardez sur vos étagères pour donner une certaine image de vous?
Non, je garde tous mes livres parce qu'il ne faut pas se renier. J'ai même une partie de ma bibliothèque qui date de mon époque maoïste où j'avais les œuvres complètes de Lénine.
Quel scandale!
À portée de main, bien sûr. Je les ai gardées parce qu'il ne faut pas, il faut pas nier et renier ce qu'on a été. Il faut l'assumer avec toute la culpabilité nécessaire pour reconnaître ses fautes. Mais je ne me vois pas afficher des livres comme font certains notaires de province où on a toute la collection de la Pléiade qu'on n'a jamais ouverte.
De province ou de Paris.
De province ou de Paris. Ou tous ces hommes politiques qui veulent vous faire croire qu'ils ont lu un livre alors qu'ils n'en ont pas lu depuis leurs années d'université, c'est dans le meilleur des cas. Et qui se font photographier devant des bibliothèques pléthoriques de évidemment, et quand on leur demande ce qu'ils lisent, ils vous disent pas j'ai lu Marc Lévy ou Guillaume Musso, ils vous disent j'ai relu Marcel Proust.
Tiens, c'est intéressant, comment vous les rangez vos livres? Est-ce qu'il y en a certains que vous mettez en avant?
Je les range par ordre alphabétique parce que c'est encore ce qu'il y a de plus
d'auteur,
et puis j'ai un immense désordre dans ma bibliothèque. La plus importante est dans la chambre où je vis, où je dors. Et je suis littéralement envahi par des stalactites et des stalagmites de livres qui menacent de s'effondrer dans le plus grand désordre. C'est le désordre du désir, si vous voulez. Moi, quand je me couche avec 5 ou 6 livres sur le bord du lit, et puis j'en prends un, je le ferme au bout de quelques pages, j'en prends un autre, etc. Mais c'est ça la voracité et la vélocité du désir qui vous porte toujours vers du nouveau.
Aux côtés de vos livres maoïstes, Michel Schneider, est-ce qu'on trouve le nouveau prix Nobel de littérature qui a été attribué au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah?
Non,
l'avez-vous dans votre bibliothèque?
Je suis comme la plupart des gens, je n'ai pas lu cette auteur. Je vous avouerai que le fait qu'on ait dans le communiqué même des Nobel, considérer que ce prix allait non pas à une œuvre, non pas à un roman, mais à une thèse, à un continent. On a dit, les Nobel ont dit, c'est l'Afrique qu'on couronne parce qu'elle ne l'a pas été depuis 20 ans et qu'à l'époque, c'était un blanc, Coetzee, qui avait eu le dernier Nobel accordé à un Africain. Bon, moi, je pense que la littérature n'est pas au service d'une cause, quelle qu'elle soit.
Peut-être que le Nobel l'est.
Ben, le Nobel, oui, c'est un affichage géopolitique, je dirais. Bon, il y a des quotas par continent. Il faut que ça revienne à l'Europe tous les temps, au continent nord-américain, au continent sur.
Cela dit, comme vous ne l'avez pas lu, et moi non plus, si ça se trouve, on peut lui donner le bénéfice du doute, c'est un grand écrivain.
Non, mais c'est probablement un bon écrivain, je n'en sais rien. Mais si vous voulez dire, on donne ce prix Nobel parce qu'il parle des migrants, c'est pas ça qui fait que c'est un bon livre. Ou un grand livre. Et j'aimerais qu'on me dise c'est un beau livre parce que le style, parce que la construction, parce que la psyché qui s'y révèle est forte et convaincante pour chacun d'entre nous, mais pas parce que ça nous montre le statut des migrants.
On le lira tous les deux.
Parce que ça, c'est un documentaire.
Et on en reparlera. Hein, parce qu'on va lui laisser le bénéfice du doute quand même. Michel Schneider, quand vous regardez votre bibliothèque, quel reflet est-ce qu'elle vous renvoie au fond?
Ben, elle me renvoie d'abord le reflet des trois livres qui ont le plus marqué ma vie, c'est-à-dire La recherche du temps perdu, c'est-à-dire L'éducation sentimentale de Flaubert, et puis Les pensées de Pascal. Je dirais voilà les livres qui ont accompagné les livres de ma vie, comme on dit les femmes de ma vie, les livres de ma vie.
Se peut-il qu'elle renvoie aussi aussi l'image d'un homme malade?
Je considère que la lecture portait un point, l'accumulation de livres portait un point de folie, enfin de c'est plus du désir, c'est quelque chose de qui vous harcèle, les livres. Moi, je me souviens avoir passé des heures et des heures à errer dans Paris à la recherche de livres dans librairie.
C'est pour ça que je vous en parle. Vous parlez de déplorable perversion.
Non, ce qui est une perversion, c'est la bibliophilie. Alors, les gens qui achètent des livres parce que ils sont pas coupés et qui valent plus cher parce qu'ils ne sont pas coupés et qu'ils ne les liront jamais. Là, moi, les livres, pour moi, c'est un livre, c'est en format de poche, c'est un n'importe quelle couverture, même usagée, c'est un livre.
Pourtant, vous l'avez été pervers, déplorablement pervers.
Je crois pas avoir dépassé le stade de la perversion normale, incluse en chacun de nous, selon Freud et selon mon expérience de la psychanalyse. Non, la perversion des livres, ce serait de les prendre comme des fétiches, quoi, comme des ce qu'ils sont aussi en partie.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre, lire ou ne pas lire, c'est la question que vous vous êtes posée toute votre vie. J'ai l'impression cette ambivalence qui s'est construite avec votre vie. Je me trompe?
La question, je vais refaire un détour. Freud a passé sa vie à dire et à se demander et à ne pas trouver la réponse. Que veut la femme? Bon, moi j'ai passé ma vie à me demander que veut la femme, j'ai pas plus de réponses que lui à proposer, mais je me suis posé la question, que veulent les livres? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me donnent? Qu'est-ce qu'ils me prennent aussi? Parce que la lecture est un acte, certes, comme dit Proust, des moments de bonheur absolu dans les journées de lecture, mais c'est aussi un acte violent. C'est un entrer dans un roman, l'auteur vous fait violence. Il vous dit, voilà, il y a Anna Filipovna qui est la mère de, etc. Bon, il faut entrer dans un roman. La lecture est un effort pour sortir de soi et aller vers ces autres qui vous diront ce que vous ne saviez pas être. Ça c'est un retour, je dirais un peu en boomerang, hein, pour votre expression. Le désir de lire peut être porté à un point d'incandescence où il se brûle lui-même, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à lire, et c'est ce que j'appelle la maladie des livres. Et beaucoup d'écrivains, contrairement à ce qu'on pense, ont écrit contre la littérature, en disant leur malheur d'être condamné à écrire, condamné à lire, et certains d'entre eux, j'en connais un certain nombre, disent que quand ils écrivent, ils cessent de lire.
De quoi est-ce qu'ils vous ont guéri, les livres, vous? Ou rendu malade, d'ailleurs?
Ils m'ont guéri de la croyance politique. J'ai passé mes premières années entre la croyance à Lacan et à la psychanalyse telle qu'il la prônait, et dans la croyance à Mao. J'avais deux livres, le petit livre rouge et les écrits blancs de Jacques Lacan. Bon, et puis ce qui m'a guéri de ça, ce qui m'a guéri de ça, c'est effectivement la littérature et les femmes. Je veux dire, les deux comme des espèces des miroirs dans lesquels on pénètre et on ne se trouve jamais, et on cherche à comprendre, et on cherche à savoir, mais on ne saura jamais.
Vous voulez dire qu'ils vous ont permis la complexité, en fait?
Ils m'ont permis la complexité. Et pour l'anecdote, je me suis dégagé du maoïsme lorsque j'ai été surpris par un des chefs de mon organisation groupusculaire en train de lire La recherche du temps perdu.
Scandale.
Scandale. Homosexuel, décadent, issu de la grande bourgeoisie.
Vive la France et la Belgique.
Et l'horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vas passer en on appelait, c'est pas ça, conseil de discipline, mais c'est ça.
Ah, carrément.
Ah oui, carrément. Et alors, à ce moment-là, j'ai compris que chez Proust, j'ai cette ouverture au monde où il veut donner toutes les contradictions de l'âme humaine, toutes les contradictions de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être une femme. Je dis, le réel est plus complexe quand même que ces mots d'ordre politique. Bien sûr, c'est un espace de mélancolie. Et Tocqueville dit, la mélancolie, c'est l'ennemi de la politique. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut plus croire aux idéaux politiques si on se regarde vraiment et si on plonge vraiment dans la littérature.
Vous savez qu'il y en a une qui n'est pas dans la complexité dans cette émission. Sans doute la connaissez-vous, Michel. C'est évidemment la culture et son actualité droite au but. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 11 octobre?
Lyon et de la métropole de Lyon ouverte.
Lumière sur la ville de Lyon, la 13e édition du Très Cinéphile, Festival Lumière, s'est ouverte ce week-end dans la capitale des Gaules, sous la nouvelle présidente de la comédienne Irène Jacob. La manifestation, inaugurée par Alain Chabat, Benoît Poulvord et Édouard Baird, va proposer au public près de 150 films dans une vingtaine de lieux de la ville. Temps fort de cette édition, l'hommage hier à Bertrand Tavernier et la remise vendredi prochain du prix Lumière à la cinéaste Jane Campion pour l'ensemble de sa carrière d'enfer.
Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con.
C'est même à ça qu'on la reconnaît. Hein. Marseille accueille dès aujourd'hui la semaine de la pop philosophie du Mucem au théâtre de la Criée. L'événement déployé dans toute la ville s'est choisi pour thème cette année la connerie. Croisant les approches philosophiques, sociologiques, littéraires ou politiques, il propose de réfléchir à des sujets ô combien d'actualité. Que faire des cons? Les jobs à la con, bullshit jobs, comment dépasser cette aberration sociale et écologique? Ou encore psychologie de la connerie en politique? Tout un programme.
Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
26, c'est le nombre d'œuvres d'art que va rendre la France au Bénin, comme l'a confirmé vendredi Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France de Montpellier. Organisé pour la fin du mois d'octobre, la restitution portera sur des trésors du prestigieux musée du Palais d'Abomey, volé en 1892 pendant les guerres coloniales. Exposé une dernière fois fin octobre au Quai Branly à Paris, la collection compte notamment des trônes royaux, des statuettes anthropomorphes et des portes de palais ouvragées. Beauté. C'est beau, c'est bon, c'est Björk, Michel. Frustré par les multiples retards et annulations de concerts dus à la pandémie, la diva islandaise a décidé de s'adapter et propose 4 concerts virtuels à suivre en ligne, en direct de Reykjavik, baptisé orchestral, sublimé notamment par les musiciens de l'Orchestre Symphonique d'Islande. Cette mini-tournée digitale débute dès ce soir et sera accessible sur réservation via une plateforme dédiée. You rock, Björk. Et l'écrivain Michel Schneider, invité de Boomerang ce matin, pour des livres et des femmes, un livre dans lequel vous dressez le portrait d'un homme en quête de solutions pour conjurer ses angoisses et ses inhibitions. La politique, je me suis demandé, quelle solution est-ce que ça a été pour vous, vous qui avez été acteur, hein, de la vie politique, justement?
Je n'ai pas été acteur de la vie politique. J'ai eu
un peu quand même.
J'étais directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture à l'époque où on mettait en place l'Opéra Bastille. Non, la politique, ce que j'en ai retiré, c'est que c'est le contraire de la culture au fond. Hein.
Wow.
D'où le livre que j'ai écrit qui s'appelle La Comédie de la Culture sur le culturel. Hein. Il ne faut pas confondre le culturel et le cultivé. Cultiver, c'est pas un bien, la culture. C'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on cherche, qu'on désire. C'est de la curiosité. C'est pas un stock, c'est pas un patrimoine.
On peut quand même avoir un capital culturel quand
oui,
on
mais
est
si vous voulez,
dans un salon
sûr.
Avec une grande bibliothèque, par
bien
exemple.
Bien sûr, mais le ministère a toujours conçu sa politique comme une politique de l'offre, c'est-à-dire on va mettre à disposition des Français qui, la plupart, n'en consommeront pas, des biens et des services culturels, et pas comme une politique de la demande, c'est-à-dire de former les gens par l'éducation nationale, au goût des arts, au goût des livres, au goût de la musique. Donc c'est là-dessus que je suis entré en conflit avec le culturel.
Alors qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'expier en vous intégrant à la vie politique, Michel Schneider ?
Oh ben, c'est pas d'expier, c'est de... Comme tout désir ou toute ambition, il y a une part de revanche sociale sur les humiliations de l'enfance. Hein. Bon, je le raconte un peu dans ses mémoires.
Oui.
Il y a en chacun de nous un enfant qui a souffert. Dans mon cas, c'était pas une enfance très très heureuse, c'est le mot qu'on puisse dire. Et la violence sociale exercée sur moi quand j'étais enfant et incapable de parler, incapable de verbaliser quoi que ce soit. Je raconte une anecdote. Quand j'avais 12 ans, 10 ans à l'école primaire, le principal vient me voir et me dit « Va te laver la gueule, petit salaud !» Parce qu'effectivement, à la maison, ne régnait pas une hygiène. Ma mère ne s'occupait pas des enfants. Et bon. Et... j'ai été candidat à l'Académie française et quand on me demandait pourquoi, j'ai dit c'est pour effacer cette phrase-là. C'est disproportionné, mais on a tous au fond de nos ambitions un enfant qui crie son désir d'être reconnu.
Moi, ce qui me passionne, c'est l'art de regarder aussi la vie politique, Michel Schneider, par le prisme de la psychanalyse. Qu'est-ce que ça donne ? À quoi est-ce qu'on prête attention ?
Ben, on prête attention à l'inconscient qui est caché là-dedans. Par exemple, bon, j'ai fait un livre qui s'appelle Big Mother. On dit toujours, on vit dans des sociétés patriarcales, etc. Moi, j'ai trouvé que dans les 20 dernières années, ça date pas de Macron, mais dans les 20 ou 30 dernières années, l'État était plutôt maternant que paternel et interdicteur. Un simple exemple. Avant, on vous disait, il est interdit de fumer, maintenant, on dit, espace non-fumeur. C'est qu'une espèce d'enveloppement. L'interdit ne s'affiche plus comme interdit, mais comme ethos, comme vous dites, comme environnement.
Bon.
Donc, là, j'ai fait ce livre sur l'État maternant qui prive les comme dit Tocqueville, parce qu'il y a un autre livre aussi qui m'a libéré de la politique, enfin, de la politique totalitaire. Hein, attention, je garde un grand intérêt pour la politique et ses enjeux. Mais c'est Tocqueville hein, qui effectivement montre comment on infantilise...
Et on y reviendra. Michel Schneider, la psychanalyse elle est partout hein, dans vos livres. Je pense notamment à Marilyn, dernière séance. La psychanalyse, quelle solution est-ce qu'elle vous a apporté ? Quel remède est-ce qu'elle a été pour vous ?
Elle ne m'a pas guéri de ma névrose, mais Freud ne prétend pas que ce soit son but. Elle m'a appris un peu mieux à entendre en moi et dans les autres cette part de mal, de contradiction, de conflit.
Et quelle question est-ce que vous
vivre
vous posiez...
avec et à vivre avec un peu mieux. Hein,
quelle question est-ce que vous vous posiez quand vous vous êtes allongé pour la première fois sur un divan?
Oh, j'avais des questions sur ce que c'est qu'être père, ce que c'est qu'être... j'avais à l'époque 23 ans, ce que c'est qu'à l'époque j'étais à l'ENA, donc je me posais la question de... Vous allez entendre l'inconscient là-dedans. Je me posais la question de est-ce que je vais sortir dans ce qu'on appelle les grands corps. Alors là encore, on est du côté beaucoup du maternel. Et la psychanalyse m'aide, mais c'est jamais définitif, c'est un processus. C'est juste toujours à reprendre.
Justement, diriez-vous que la question est plus importante que la réponse ?
Mais bien entendu, des réponses, il n'y en a pas. Les gens vous disent qu'est-ce qu'est le sens de de l'aide. Il n'y en a pas. Je prends un exemple du retour de l'inconscient comme le boomerang. Hein. J'ai intitulé ce livre pendant très longtemps, j'ai travaillé 4 ans dessus, j'ai intitulé l'homo-livre. Des calques de Freud, l'homo-loup, l'homo-rat, etc. Pour dire, voilà, c'est un homme qui a des symptômes, il a un rapport pathologique au livre. Et puis, à la fin, mais à la toute fin, vraiment, à un moment de remettre le manuscrit à l'éditeur, j'ai dit, on va changer le titre. Et j'ai suggéré, ce qui a été accepté avec joie, des livres et des femmes. Mais quand j'ai donné ce titre, je le prononçais avec la liaison qui est nécessaire dans la langue orale des livres et des femmes, qu'on ne fait plus. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, mais attends, délivré et accent aigu, des femmes, est-ce que tu penses que tu es délivré des femmes? Je réponds, Dieu merci, non, on n'est jamais délivré des femmes et on n'est jamais délivré des livres. Et c'est tant mieux, on vit avec ces contradictions et ce désir qui vous taraude.
Le langage, Michel Schneider, vous en parlez comme d'une maladie sexuellement transmissible, page 361, comme d'un mal.
Oui.
Quel mal?
À la fois c'est le mal et le remède. Le langage, c'est ce qui vous rend, on le voit dans les cures, certaines phrases, certaines attitudes, certains non-dits. Le non-dit, c'est aussi du dit. Hein. Parentaux vous rendent malade ou psychotique ou névrosé ou pervers ou les trois.
Les mots peuvent détruire.
Comment?
Les mots peuvent détruire.
Bien sûr que les mots peuvent détruire. Bah, attendez, les livres peuvent détruire parce qu'on dit toujours les livres. Quelle merveille, c'est ouais. Libérateur, émancipateur de l'humanité, etc. Et Mein Kampf.
C'est mal les connaître.
Combien Mein Kampf a fait tuer de gens, et le petit livre rouge, 20 millions de morts dans la révolution dite culturelle. Bon, les livres sont des armes, et en même temps, c'est dans les livres qu'on trouve le remède aux livres. Hein. C'est, moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution pour dire ma peur des livres, mon angoisse de lire, mon angoisse d'écrire, que d'en faire un. C'est ça le paradoxe.
On va reparler d'angoisse, de livres, de reflets, d'identité, de mots, juste après la voix de Marilyn Monroe en 1953 dans Les Hommes préfèrent les blondes. C'était Bye Bye Baby, c'était si beau. Vous êtes sur France Inter avec Michel Schneider. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
I'll be in my room every post meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Baby, bye, bye, bye with my baby.
Augustin Trapenard.
C'est vrai que physiquement, on est quelque part entre le chaboté et l'acteur dans Thérapie. Le sourcil Archimède, le regard viennois, la mèche souple, c'est comme s'il avait toujours un coup d'avance. Il était capable d'anticiper le début de chacune de vos phrases, c'est assez épatant. Avec sa veste en velours ce matin, l'écrivain Michel Schneider, invité de Boomerang pour ce livre des livres et des femmes, où vous nous parlez notamment de langage, on l'a compris, mais aussi d'écriture. Et ce qui me frappe, moi, c'est que votre texte quand même est travaillé par le va-et-vient permanent entre le désir et le dégoût de l'écriture. Qu'est-ce qui rend l'écriture profondément désirable et dégoûtante?
Mais tout rapport à un objet est à la fois fait d'appétit et de dégoût, que ce soit les objets sexuels, les objets alimentaires. On ne peut pas nier qu'il y a toujours une ambivalence fondamentale.
Oui, mais en quoi l'écriture, écrire est-il une activité qui parfois vous fait honte, par exemple?
Ben, parce que on se dit, mais au nom de quoi je vais raconter ce que je suis ou ce que je crois être ou ce que je voudrais être, en quoi ça va intéresser les gens? Il y a toujours, c'est jamais légitime d'écrire. C'est toujours une prise de pouvoir, une prise de possession, enfin une tentative, parce que on n'a pas non plus des lecteurs par centaines de milliers.
Et dans le même temps, c'est ça qui est fascinant, honte peut-être aussi de se dérober à la vie, de s'en écarter, de la fuir.
Et bien sûr, c'est un conflit permanent qui a été magnifiquement montré par Proust. Est-ce que je dois vivre ma vie ou est-ce que je dois l'écrire? Il a choisi de l'écrire. S'il n'empêchait pas d'en vivre, parce que il faut pas oublier que Proust sortait tous les soirs et faisait des nuits blanches au Ritz ou ailleurs. Donc, il s'est pas empêché de vivre pour écrire. Sauf à la fin, où effectivement c'était une course de vitesse entre la mort et l'écriture.
Mais c'est une bonne question. Quand est-ce que vous vous sentez vivant, vous, Michel Schneider?
Eh bien, certainement pas dans l'écriture. Dans l'écriture, vous vous sentez toujours... en dehors de l'idéal que vous vous fixez, je dirais les moments où on se sent le plus vivant, c'est probablement dans les rapports amoureux. C'est là où on se dit, bah oui, j'existe et ce que je vis là, c'est ça la vie. Au fond, contrairement à la phrase de Proust qui dit la vraie vie, la vie vraiment vécue, c'est la littérature. Moi, je pense que la vie vraiment vécue, c'est la vie, hein, tout simplement, dans tous ses aspects, hein, de plaisir, de souffrance, mais que la littérature est une certaine fuite vis-à-vis de la vie, comme d'autres drogues. Hein.
Il se trouve que vous nous avez écrit un texte ce matin, un texte qui parle de singulier pluriel, un texte de mots et d'accords, en fait. On vous écoute.
Je m'étonne de l'abus du pluriel dans le langage officiel, politique et administratif. On parle des mobilités, des territoires, des outre-mer, des solidarités, le ministère des armées. France Musique s'est longtemps appelée France Musique au pluriel, et j'imagine qu'un jour, arguant de leur diversité, on rebaptisera France Culture en France Culture avec un S. Pourquoi ces ridicules appellations? Effondrement de l'État comme principe d'unité, désagrégation d'une société individualiste et clanique, sous les coups d'une mondialisation qui met à mal l'universel. Sur le fond, ces S ne s'imposaient pas. Le singulier peut être bien plus vaste que le pluriel. Liberté, égalité, fraternité, notre devise républicaine englobe tous les sens que ces trois mots peuvent prendre. De même, les mots « homme » et « citoyen » au singulier, terme de la déclaration qui leur accorde des droits, au pluriel, désigne des ensembles plus vastes que la somme des communautés auxquelles ils appartiennent. À quand un ou plusieurs ministères des intérieurs, réplique d'un extérieur atomisé, pour gérer le régalien dans la diversité? Et pourquoi la gauche laisse-t-elle à la droite le monopole des mots rassembleurs, des mots singuliers, la France, la nation? À quand un ministère des égalités, au motif que, en fait, il y a des habitants plus égaux que d'autres? Je croyais pourtant lire à l'article 1er de notre Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, l'égalité au singulier, j'ai bien lu, devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Écoutons Tocqueville définir l'égalité. C'est une tension entre un idéal qui en contredit un autre, également singulier, la liberté. Il y a, dit Tocqueville, une passion mâle et légitime pour l'égalité, qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l'égalité qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté.
Michel Schneider, c'est intéressant, l'égalité dans la servitude contre l'inégalité dans la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut aller vers plus d'égalité qu'à condition de compromettre la liberté?
On a vu au moment des confinements et des règles qui étaient imposées en matière de ce qu'on a appelé les relations sociales, on a vu effectivement des mesures qui privilégiaient l'égalité. C'est-à-dire que quand on imposait à une catégorie de gens des mesures restrictives, les soignants, là, les autres disaient mais c'est pourquoi on l'impose pas pourquoi on leur impose à nous et pas aux autres. Donc c'est l'égalité par le bas, c'est-à-dire que tout le monde dans la mouise. Donc il fallait pour qu'on soit égaux devant le sort que tout le monde soit mis au plus bas. Donc ça, on a vu quand même là effectivement des gens préférer l'égalité à la liberté. Ce qu'on a subi.
C'est quelque chose qu'on nous demande de désapprendre, en fait, la liberté. C'est ça que vous nous dites.
Ben, oui, je pense que la liberté doit être mise avant les autres passions et que l'égalité est un moyen. Que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité possible.
Il est loin, Mao, là.
Comment?
Il est loin, Mao.
Ah, ben, il est très loin, Mao. Ah bah. Oui, ben, ça, il a été désintoxiqué par une cure de Proust et de Tocqueville. Bon, effectivement, je pense que la liberté, c'est le bien suprême et pas la santé et pas l'égalité en tant que nivellement par le bas.
Merci infiniment en tout cas Michel Schneider d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Des livres et des femmes vient de paraître chez Gallimard et c'est un livre d'une folle liberté. Tout de suite les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos. Chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien. Au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos. C'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours.
Bonjour Jacques, il est 9h40 sur France Inter, l'Instant M. Sonia De Villers, comment va Sonia?
Ah mais bien Augustin, très bien, et vous?
Super.
Bon bah salut, à demain.
À demain.